Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à la mission Planck. Pour en parler, nous recevons Jean-Loup Puget. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences et vous travaillez à l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Sud. Et pour la mission Planck, vous êtes le responsable principal de l'instrument HFI. Aujourd'hui, vous allez nous raconter comment le projet de cette mission s'est monté et comment il est piloté. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire comment se partagent les responsabilités sur ce projet et qui finance quoi dans cette histoire ?
Alors, le projet Planck, c'est un projet de l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne fait des appels d'offres et des groupes de scientifiques proposent des projets de satellites qui font des sciences variées sur la planétologie, en cosmologie, ou même en physique fondamentale. Les scientifiques ont répondu sous ma direction à un appel d'offres qui a été fait en 1992. Donc ça fait un certain temps, on a répondu en 1993, donc ça fait 15 ans qu'on travaille dessus. Il y a des études qui sont faites au départ, il y a des sélections, en fait on sélectionne d'abord 8 projets et puis après on fait faire pour un plus petit nombre qui a été 4 dans ce cas-là, des études industrielles pour savoir quel est le coût et pour savoir si c'est vraiment faisable. Et puis finalement, il y en a un qui choisit, et on a eu la chance d'être celui qui était choisi, le choix ayant eu lieu en 1996. Donc depuis 1996, on s'est mis à construire le projet. Alors l'ESA finance le satellite, finance le lanceur, et finance ce qu'on appelle les opérations, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire pour parler au satellite, en quelque sorte, échanger par radio avec le satellite et le commander. Et puis, elle fait un appel d'offres pour que des groupes de scientifiques, des instituts, avec des financements nationaux, alors pour la France, par exemple, c'est le Centre d'études spatiales, le CNES, qui nous finance, qui fabrique ce qu'on va mettre derrière le télescope, hein, qui est fabriqué, lui, par l'ESA. Donc ça, c'est le partage en gros. Et dans le satellite Planck, il y a deux instruments. Un instrument dit haute fréquence, qui est celui qui est piloté par les Français, et puis un instrument italien complémentaire, qui travaille dans un domaine de fréquence différent, et qui travaille avec des techniques différentes, travaille avec des techniques radio, alors que l'instrument haute fréquence, qui est l'instrument français, travaille avec ce qu'on appelle des bolomètres, qui sont des détecteurs refroidis à très très basse température. Et donc, l'un est financé par un consortium dont on pourra parler, si vous le souhaitez, et les autres par un consortium dirigé par les Italiens, qui est aussi un consortium international.
En plus des agences spatiales, on trouve le CNRS. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est sa contribution et son rôle dans le projet ?
Ouais, alors par exemple, en France, effectivement, les contrats industriels dont on a besoin et l'argent dont on a besoin pour travailler, pour construire ce projet dans les instituts, dans les laboratoires, est fourni par le Centre d'études spatiales, par le CNES. Par contre, il y a beaucoup d'ingénieurs du CNRS qui travaillent dans les laboratoires sur le projet. Et si on regarde la contribution du coût des salaires de ces ingénieurs et de ce qu'il leur faut pour travailler par rapport à ce que met le CNES, c'est à peu près moitié-moitié. C'est-à-dire que le CNES a financé beaucoup les contrats industriels extérieurs et le CNRS a financé une partie du travail qui était fait dans les laboratoires. Et ça fait à peu près la moitié.
D'accord. Et donc, il encadre ces scientifiques. De quoi il s'occupe exactement ?
Alors, le CNRS, dans les projets spatiaux, laisse le pilotage du projet au CNES assez largement. Il y a des réunions dites inter-organismes où les deux organismes discutent de leurs contributions relatives et c'est plutôt le CNES qui est un chef de projet qui s'occupe de suivre un peu régulièrement et au jour le jour ce que font les différents instituts. Donc il y a deux des instituts du CNRS, l'Institut National des Sciences de l'Univers qui s'occupe d'astronomie, s'occupe aussi de géophysique, et l'INDP3 qui est l'Institut de Physique Nucléaire et de Physique des Particules qui est, comme son nom l'indique, qui fait de la physique des particules et de la physique fondamentale, et il y a beaucoup de physiciens de la physique fondamentale qui sont intéressés au projet Planck. Donc ces laboratoires ont aussi contribué au projet Planck.
En parlant donc des scientifiques, maintenant on va parler d'eux. Donc vous avez parlé de ce consortium autour de Planck. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est construit, comment ça s'est constitué au fur et à mesure des années ?
Alors les idées sur une manip de ce genre, elles n'émergent pas d'un seul coup. C'est pas au moment où il y a l'appel d'offres de l'ESA qu'on commence à imaginer qu'on aimerait faire une expérience de ce type. En fait, les scientifiques qui ont dirigé la première réponse à l'appel d'offres, en fait, avaient pour beaucoup contribué à d'autres réponses à des appels d'offres pour travailler sur le même sujet, c'est-à-dire le fond cosmologique. Donc, un rassemblement de scientifiques qui ont déjà collaboré ensemble sur des projets préalables, ou aussi des scientifiques qu'on va chercher parce qu'ils ont une compétence particulière et qu'il y a une technologie particulière qu'ils ont développée dont on a besoin. Donc en particulier sur le projet Planck, et sur le projet de l'instrument haute fréquence, on a besoin de refroidir les détecteurs à très basse température. On a fait une chaîne de trois réfrigérateurs qui vont refroidir finalement, au bout du compte, les détecteurs à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu. Et en fait, cette chaîne de refroidissement, elle est complexe et elle est réalisée par différents acteurs. Un acteur, c'est un industriel qui est choisi par l'ESA, en l'occurrence Thales Alenia Space, dont le centre est à Cannes, qui fait le satellite et qui fait aussi la structure qui, en quelque sorte, fait du refroidissement qu'on appelle du refroidissement passif. On laisse le télescope et ce qui l'entoure, les instruments, se refroidir passivement en se refroidissant sur l'espace froid à une température qui est à peu près 50 degrés au-dessus du zéro absolu, moins de 120 degrés. Et puis, après, il y a un système actif, qui est un système qui a été construit par le Jet Propulsion Laboratory, le grand laboratoire spatial américain qui est en Californie, qui fait beaucoup de manips planétaires, dont les gens ont beaucoup entendu parler, mais qui contribue aussi, par exemple, au projet Planck, et qui a construit un système original, qui est un système qui fonctionne sans vibration. Les réfrigérateurs, souvent, ça a des compresseurs, comme tous les réfrigérateurs qu'on a chez nous. Et celui-ci fonctionne par un autre système, et sans vibration, et refroidit jusqu'à 20 degrés au-dessus du zéro absolu. Puis un autre système construit par les Anglais, avec des compresseurs mécaniques, ceux-là, donc effectivement, qui font un peu de vibration, ce qu'on n'aime pas beaucoup, parce que ça affecte les détecteurs, et qui sont au Rutherford Laboratory, par exemple, en Angleterre, qui ont construit un étage qui descend à 4K. Et enfin, le système le plus pointu de refroidissement, qui a été inventé par le laboratoire des très basses températures de Grenoble, et qui refroidit à un dixième de degré au-dessus du zéro absolu, et pour lequel la réalisation, la mise en œuvre de ce système pour la partie satellitaire a été faite par l'Air Liquide, la division des techniques avancées, à côté de Grenoble.
D'accord, et si on s'intéresse maintenant aux scientifiques qui ont préparé cette mission, qui vont exploiter ces données, donc vous avez cité pas mal de nationalités, de quels horizons viennent-ils ces scientifiques? Quels sont les types de scientifiques qu'on trouve dans cette mission?
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un nombre de pays importants impliqués dans la construction et l'analyse des données. Il y en a sept, mais il y en a quand même trois principaux qui sont effectivement la France, qui est à peu près pour la moitié, et puis les États-Unis et l'Angleterre, le Royaume-Uni plus exactement, qui font à peu près 20% chacun, et puis après il y a des petites contributions d'un certain nombre d'autres pays. Et l'origine des scientifiques, c'est quand même principalement des astrophysiciens et des cosmologistes, mais il y a effectivement un nombre non négligeable de physiciens qui sont des physiciens de la physique fondamentale, les gens qui s'interrogent sur les interactions fondamentales, leurs relations, comment est-ce qu'on peut, par exemple, dans notre compréhension de la physique, comprendre les relations entre la mécanique quantique et la relativité générale. La physique qui nous a été laissée par le début du XXe siècle a quand même des grandes questions non résolues. Et si on s'approche du Big Bang, comme on va le faire avec Planck en termes d'observation, d'observer ce qui se passe très très près du Big Bang, on peut espérer effectivement avoir des réponses ou tester certaines des hypothèses sur ces relations, sur les choses, ce qu'on appelle la gravité quantique, qui est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à mettre sur pied, mais qui devient critique quand on approche soit des trous noirs, soit du Big Bang.
Donc des cosmologistes et aussi des gens qui vont savoir traiter ces données. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer exactement?
Oui, ce qu'on appelle le traitement des données, il y a vraiment un nombre d'étapes assez différentes. Il y en a une première qui est plus technique, qui consiste à prendre les données telles qu'on les reçoit du satellite. Alors il y a aussi là aussi une chaîne un peu longue. C'est l'Agence spatiale européenne qui, par son antenne qui se trouve en Australie, va tous les jours pendant 3 heures échanger avec le satellite par radio, recevoir les données, les transmettre à un centre d'opération des satellites de l'Agence spatiale européenne qui est à Darmstadt, à côté de Francfort, qui va enfin nous envoyer, nous, les données à Orsay, où on va les recevoir. Et puis après, il y a des équipes de scientifiques dans plusieurs laboratoires en France, à l'Institut d'astrophysique de Paris, à Grenoble, à Toulouse, qui vont faire un premier traitement, c'est-à-dire essayer de faire un nettoyage, si on peut appeler ça comme ça, de ce qu'on appelle les effets systématiques, les effets instrumentaux, de façon à essayer d'avoir de la façon la plus propre possible l'instrument qui vient vraiment du ciel. Après, il faut faire une séparation entre ce qui vient du fond cosmologique, vraiment ce qui nous vient du Big Bang, et puis ce qui nous vient de plus près de la galaxie. Ça, c'est déjà un traitement plus scientifique et plus sophistiqué. Et puis après, quand on a extrait la partie cosmologique, en quelque sorte, les observations du fond cosmologique, il faut les interpréter Et c'est là que les physiciens théoriciens vont finir par intervenir pour essayer de savoir qu'est-ce que ça nous apprend, effectivement, sur l'explosion initiale et ce que les physiciens et les cosmologistes appellent l'inflation, qui est en quelque sorte une phase qui est en quelque sorte avant le Big Bang tel qu'il était conçu, je dirais, depuis les années 30, quand on a commencé à voir l'univers en expansion et que Einstein a fait les premiers modèles d'univers, et les années 80, où on a vu qu'il fallait qu'une des explications du début, une explication qui finalement laisse des questions ouvertes aussi, encore plus en amont, mais comment a démarré ce Big Bang ?
Et pour que cette chaîne fonctionne, donc depuis le satellite télécommandé jusqu'à la récolte des données, il se passera combien de temps exactement ?
Alors d'abord, juste la toute première phase, on reçoit les données quelques heures après qu'elles aient été prises, enfin typiquement une journée, puisque d'abord on est en contact avec le satellite que quelques heures par jour, donc les données sont stockées à bord, et puis elles finissent par nous arriver avec un délai qui est de l'ordre de 24 heures. Par contre, le traitement, on va traiter tout le ciel à la fois. Donc tous les 6 mois, on couvre le ciel complètement. La durée nominale de la mission, c'est une année qui couvre 2 fois le ciel. Mais en fait, la durée de vie qu'on peut déduire des tests qu'on a faits du système de refroidissement en particulier au Centre spatial de Liège l'été dernier, nous montre qu'on devrait avoir au contraire 2 ans de temps de vie, puisque finalement le système de refroidissement marche très bien et qu'on peut on peut le faire travailler avec des débits de gaz qui sont les plus faibles qu'on avait prévu d'utiliser. Donc on a une marge assez considérable, donc on aura 2 ans d'observation probablement, et encore une année pour finir de traiter les données qui seront à ce moment-là distribuées à l'ensemble de la communauté scientifique mondiale et pour en même temps où les équipes qui ont travaillé sur Planck publieront leur propre analyse et leur propre interprétation des résultats.
Donc ça va concerner combien de scientifiques et ça va les occuper pendant combien de temps si on peut estimer ?
Alors sur le projet, il y a à peu près 300 scientifiques impliqués si on met on considère les 2 instruments. Parmi ces scientifiques, on peut considérer qu'il y en a une fraction qui sont des gens qui sont particulièrement impliqués dans la construction de l'instrument par leurs compétences pointues sur soit les détecteurs, soit les systèmes de refroidissement, etc. Et une fraction autre qui est plus proche de l'interprétation et de l'analyse des données. Et dans ceux-là, il y en a à peu près la moitié qui s'intéressent vraiment à la partie cosmologique, mais d'autres, qui d'abord étaient un peu des spécialistes de ce domaine de fréquence et de longueur d'onde, micro-ondes, infrarouges très lointains, et qui s'intéressent à, finalement, ce qui est pour la cosmologie des nuisances, c'est toutes les émissions de notre galaxie, par exemple, ou des galaxies plus ou moins lointaines qu'on voit entre nous et le fond cosmologique, mais qui sont une source d'information extrêmement précieuse pour tous les gens qui étudient justement soit le milieu interstellaire de notre galaxie, soit les galaxies extérieures à la révolution. Donc il y a toute une frange qui va aussi faire de l'astrophysique générale en quelque sorte, et qui représente au moins la moitié de ça. Donc il y a beaucoup de scientifiques qui vont travailler dans cette première phase et avant la distribution publique des données pour faire ce qui sera probablement une cinquantaine de papiers scientifiques, de publications scientifiques, qui vont sortir en même temps que les données, au moment où les données seront distribuées publiquement par l'ESA.
Donc beaucoup de résultats en vue. Jean-Loup Puget, merci. Je rappelle que vous êtes donc le responsable principal de l'instrument HFI sur la mission Planck. Merci.